Zer.
€15 par jour, c'est la contribution pour les repas et autres frais d'hôtellerie que les personnes hospitalisées devront payer dès le 1er janvier prochain. La mesure devrait permettre à l'assurance maladie de base d'économiser 115 millions de francs par an. Il ne faut pas être bon chrétien en Irak, il ne fait pas bon être chrétien en Irak, et encore moins en période de Noël, reportage d'Anne-Sophie Lemouf dans la petite ville d'Al-Kosh, dans le Kurdistan irakien. Antigel, c'est le nom du nouveau festival qui va réchauffer les hivers genevois. C'est un grand laboratoire d'exploration artistique entre musique et danse qui aura lieu du 6 au 20 février prochain. Et pour en parler, nous recevrons le chanteur Polar, alias Eric Linder, qui est cofondateur d'Antigel. Météo, l'après-midi sera ensoleillé partout en Suisse romande. Il fera environ moins 4 degrés sur le plateau et 0 degré dans la plaine du Rhône.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute de contournement de Genève, deux accidents se sont produits dans les tunnels de Vernier et de Confignon en direction de la France. Un bouchon s'est formé et remonte jusqu'à la jonction de l'aéroport. Et sur l'autoroute Vevey-Martigny, un embouteillage est observé entre les jonctions de Villeneuve et d'Aigle en direction du Valais suite à un carambolage. En Suisse alémanique, un accident survenu sur l'autoroute Zurich-Berne provoque un embouteillage entre les jonctions de Rotrist et Dösingen en direction de Berne et également entre les échangeurs de Sissach et de Erkigen sur l'autoroute Bâle-Lucerne. Il est conseillé aux automobilistes en provenance de Bâle et se rendant à Lucerne de se détourner par l'autoroute A3 via Zurich. Dès le 1er janvier prochain, les patients hospitalisés devront payer une taxe de 15 francs pour leur repas et frais d'hôtellerie. Cette mesure, adoptée au début du mois par le Conseil fédéral, commence à susciter une vague d'indignation, comme le constate aujourd'hui le Matin Dimanche. Laurence Jobin, elle doit permettre de réduire 115 millions de francs par an les coûts à la charge de l'assurance de base.
Oui, jusqu'ici, l'indignation concernait la mesure qui prévoit la fin du remboursement par l'assurance obligatoire des lunettes et verres de contact. Et pourtant, dans le même paquet adopté le 3 décembre dernier par le Conseil fédéral, une autre mesure se montre tout autant impopulaire. Dans sa décision prise par voie d'ordonnance, donc sans obligation de passer par le Parlement, le gouvernement rappelle que les assurés, lorsqu'ils sont à l'hôpital, économisent sur leurs frais de nourriture, mais que par la loi, ils sont tenus de participer à ces coûts.
Et alors, quelle était la situation jusqu'à présent ?
Eh bien, depuis 1996, date de l'entrée en vigueur de la LAMAL, uniquement les personnes qui vivent seules doivent s'acquitter d'un montant de 10 francs par jour d'hospitalisation. Le principe étant de dire que ces personnes auraient de toute façon dépensé une telle somme pour se nourrir. Les familles ou couples sans enfants étaient jusqu'ici exemptés de cette taxe.
Et avec ce changement, qui paiera quoi ?
Alors tous les assurés adultes passeront à la caisse dès samedi prochain et ce ne sera plus 10 francs mais 15 francs. Par contre, les enfants jusqu'à 18 ans, les jeunes adultes en formation et les femmes pour les prestations de maternité continueront à en être exemptés. Le département fédéral de l'intérieur de Didier Pourcalter estime que le caractère discriminatoire de cette mesure qui prévalait jusqu'ici sera ainsi éliminée et que ce changement permettra de réduire les frais administratifs disproportionnés qu'elle entraîne.
Et cette mesure suscite donc de plus en plus de réactions virulentes.
Oui, PS, PDC, H+, la fêtière des hôpitaux et cliniques de Suisse ou encore Association Suisse des patients, tous critiquent une mesure qui représente un transfert de charges sur le dos des patients et des économies de bout de chandelle puisque ces 115 millions ne représentent que 0,5% des primes payées par les assurés.
Merci Laurence Jobin. Micheline Calmiret entend améliorer les relations entre la Suisse et l'Union européenne en 2011, année de présidence pour la conseillère fédérale genevoise. Il s'agit là d'une priorité, a précisé la chef du département fédéral des affaires étrangères dans une interview parue ce matin dans la Sonntagszeitung. 43 morts et plus de 100 blessés, c'est le bilan encore provisoire de l'attentat-suicide commis hier contre un centre de distribution du Programme alimentaire mondial dans le nord-ouest du Pakistan. Commis par une femme, l'attentat a été revendiqué par le mouvement des talibans du Pakistan. À noter que depuis vendredi, l'armée pakistanaise a tué une quarantaine de rebelles dans cette même région, bastion des talibans pakistanais. La situation continue de se dégrader à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Tôt ce matin, deux combattants du djihad islamique palestinien ont été tués dans un échange de tirs avec l'armée israélienne. Le Hamas au pouvoir à Gaza se dit prêt à la guerre. Hier, le pape Benoît XVI a mis la paix et la sécurité des chrétiens au cœur de son message traditionnel de Noël. Le souverain pontife a notamment appelé les communautés chrétiennes de Chine et d'Irak à résister aux attaques et aux brimades. Et en Irak, résister lorsqu'on est chrétien n'est pas un vain mot. Exemple à Al-Khor, une petite ville du Kurdistan irakien, une correspondance d'Anne-Sophie Lemouf.
Encerclée par les forces kurdes et la police irakienne, Al-Khosh est un havre de paix au regard des violences qui sévissent à Mossoul, où pas une journée ne se passe sans qu'un chrétien ne soit tué ou menacé. Arlam vit avec 10 membres de sa famille dans une pièce de l'église. Un confort spartiate, des vivres fournis par les religieux, mais surtout l'assurance de ne pas être tué.
Nous sommes chrétiens et nous n'avons pas de liberté à Mossoul. On ne peut aller ni au marché ni au travail. Ils tuent les hommes. Ils ont menacé nos voisins, mis le feu à leur maison et nous nous avons fui.
Pire que tout en cette période de Noël, s'exclame Nadia, mère de 3 enfants.
Ils nous ont dit, si vous fêtez Noël, on vous enverra un cadeau, une surprise pour vous. Mais quelle surprise, une grenade ?
Même si tous espèrent retrouver leur foyer, le rêve de l'étranger n'est jamais loin, comme l'exprime Hammer.
Nous sommes des chrétiens d'Irak, ils doivent nous prendre et trouver une solution. Même le pape dit que les chrétiens doivent rester. Mais rester juste pour être tués ?
Un cri d'alarme qui se perd dans la masse. Anne-Sophie Lemauf, Radio Suisse Romande, Al-Khosh.
Le gouvernement britannique veut pouvoir infliger de lourdes amendes aux aéroports qui, par leur défaillance, entravent le transport des voyageurs. La position vient du ministre britannique, cité dans un article du Sunday Times, aujourd'hui, à propos de la gabegie qui a régné à l'aéroport d'Heathrow durant ces derniers jours à cause de la neige. Le ministre parle d'ailleurs de millions de francs d'amende. Au lendemain de Noël, les enfants sont encore tout fous avec leurs nouveaux jouets. Avec une grande question, combien de jours ces jouets vont-ils tenir ? Car pour les jouets de Noël, comme pour l'essentiel des biens de consommation d'ailleurs, c'est un peu la logique de notre société. On achète, on casse, on jette et on rachète. Enfin, partout, pas partout, car à Quito, la capitale équatorienne, un homme de 48 ans s'est insurgé contre cette logique perverse. Il a créé la clinique du jouet. Visite guidée avec notre correspondant Eric Sanson.
Au nord de Quito, Augusto et sa femme Concepción viennent d'apporter à la clinique du jouet un petit camion qui n'est plus de première jeunesse. Décorateur à l'origine, Paul Morales examine le camion. Entre une roue manquante et un mécanisme oxydé, il établit un devis pour sa réparation. Ce local n'est pas une boutique, la clinique du jouet a une philosophie très simple. L'idée de la clinique est née il y a 12 ans. Avant la naissance de son fils, Paul souhaitait lui offrir des jouets construits ou réparés de ses mains. Un geste qui émeut toujours le jeune Paul François, âgé aujourd'hui de 10 ans.
Que yo cuando nací me crearon un juguete express, un conejo. Les gustó y crear juguetes. Me hace sentir bien porque lo creó mi papá.
Très vite, le public afflue. Paul Morales l'explique par le fait que selon lui, il répare beaucoup plus que des objets.
Una señora trajo 60 Barbies decoraditas, todo y dijo, "Lávenles, peínenles, quiero, necesito que estén súper bien." Mi hija falleció hace unos 3 meses. Se repara al ser humano psicológicamente, espiritualmente, y el juguete prácticamente llega a ser el complemento de su reparación. Es una felicidad inmensa.
Eric Sanson, Radio Suisse Romande, Quito.
Antigel, c'est le nom du nouveau festival qui va réchauffer les hivers genevois. C'est un grand laboratoire d'exploration artistique entre musique et danse qui aura lieu du 6 au 20 février prochain. Ce qui donne un caractère original à ce nouveau rendez-vous, c'est qu'il va se dérouler dans pas moins de 15 communes genevoises et qu'il va investir des lieux insolites, comme par exemple un dépôt de bus ou une patinoire. Le budget vient d'être bouclé, il se montera à 1,3 million. Alors, pour en parler, nous recevons le chanteur Polar, alias Eric Linder, qui cofonde Antigel avec Claude Radze, le programmateur danse. Eric Linder, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, à quoi va ressembler ce nouveau festival au niveau de sa ligne artistique ?
Je pense que ça va être un festival qui va un petit peu questionner la relation entre la danse et la musique, à travers un voyage vraiment assez insolite dans des lieux et beaucoup de communes, comme vous avez dit, pas loin de 15 communes. Donc ça va être à la fois des spectacles de danse, des concerts, mais aussi des créations, des laboratoires, comme vous avez dit. On va vraiment œuvrer un petit peu comme les programmateurs, donc Claude Ratzé et moi-même, à essayer de rassembler des gens et les faire travailler ensemble pour faire des nouveaux projets.
Mais dites-moi, en cette période de vache maigre, au niveau financier, ça n'a pas dû être facile. Vous avez réussi un vrai tour de force, vous avez obtenu le soutien financier de 15 communes. Ça aussi, c'est nouveau, cette volonté de créer une ébullition dans une multitude de lieux.
Oui, ben c'est vrai qu'on a été vraiment fortement soutenus. C'est vrai que c'est le fruit d'un long travail, parce que ça fait bientôt 4 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un peu comment dire, l'idée était un petit peu de penser à une nouvelle manifestation. Je pense que venir aujourd'hui qu'une manifestation soit la ville de Genève, je pense pas que c'était le propos et c'était pas quelque chose qu'on voulait faire. Mais ce qu'on voulait vraiment faire, c'était quelque part réfléchir à une nouvelle cartographie de la région genevoise, de l'agglomération, avec en essayant de rassembler en fait des gens qui se connaissent peut-être pas encore très 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 bien. Toutes ces communes font œuvre un peu chacune de son côté. Et puis nous, on a un peu œuvré un petit peu comme élément rassembleur et vraiment ensemble, parce que on a vraiment travaillé main dans la main avec les conseillers culturels, les différentes mairies de ces communes. Vraiment ensemble, on a fait un travail pour essayer d'imaginer une nouvelle manifestation qui raconte quelque part un peu ce que va aussi devenir Genève dans le futur, parce que Genève va s'étendre. On voit déjà avec l'arrivée des trams qui nous amène nouveau dans des nouvelles régions maintenant, comme Mérin en pas loin de 14 minutes. Ces endroits-là vont maintenant vivre vraiment d'une nouvelle manière, et puis quelque part ce festival envie de donner cet impulse-là.
Alors dites-moi, Eric Linder, il y a quand même des trucs qui vont être sympas. On pourra écouter de la musique sous l'eau dans une piscine, ouais, ou voir des hockeyeurs participer à une chorégraphie. Vous-même, vous étiez athlète de bon niveau d'ailleurs.
Oui,
c'est important pour vous de créer des ponts entre les arts et le sport ?
Oui, moi je pense que c'est très important. Je pense que c'est souvent, ces domaines sont très cloisonnés, même quelque part dans les services de ces communes ou même de la ville de Genève, il y a le service des sports, il y a le service culturel, et finalement ces services ne travaillent pas souvent ensemble. Et moi, ça m'a toujours étonné quelque part, venant comme vous disiez du sport, à quel point ces domaines se connaissaient mal. Et je pense qu'il y a vraiment des rapprochements à faire, il y a vraiment plein de réflexions à faire sur ces domaines-là, et je pense qu'il y a un côté aussi ludique.
Eric Linder, on doit vous laisser. Oui. Merci d'être venu, et puis on vous souhaite bonne chance, et je donne l'adresse de votre site internet, c'est www.antigel.ch.
Merci beaucoup.
Au revoir. Haute définition, une émission que vous... Pardon, excusez-moi. La science et la spiritualité sont-elles des chemins si différents ? En nouvelle diffusion, haute diffusion, vous propose de réécouter le philosophe des sciences, Jean Stone.
Haute définition, Manuela Salvi.
La science a-t-elle atteint ses limites ? Sommes-nous à l'aube d'une révolution ? Les visions scientifiques et spirituelles du monde vont-elles converger ? Les scientifiques vont-ils réenchanter le monde ? Pour en parler, Jean Stone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, et la liste est longue, philosophe des sciences, diplômé en paléontologie, en mathématiques, en gestion, en sciences politiques et économiques, secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, université privée. Vous êtes un boulimique du savoir, de la connaissance ?
Oui, j'ai toujours voulu essayer d'avoir une vision globale, vous voyez, de ne pas se laisser enfermer dans une discipline, c'est ce qui explique mon parcours. Et donc, dans un monde qui est très très cloisonné, je pense qu'on manque de synthèse, et mon but a toujours été d'essayer à mon petit niveau à moi, d'essayer de bâtir quelques synthèses possibles sur un certain nombre de grandes questions.
Et cette interdisciplinarité que vous prenez, c'est la seule manière d'appréhender la complexité du monde ?
Des gens comme Newton, des gens comme Descartes, c'était à la fois des philosophes, des artistes, des scientifiques, scientifiques, des ingénieurs, des peintres, parfois, vous voyez. Donc, il y avait cette vision globale.
Vous la regrettez? Vous souhaitez qu'elle revienne?
Alors, et attention, on a été très, très performants en coupant le réel en tranches, en ayant des gens ultra spécialisés, car c'est le prix à payer pour faire progresser la connaissance. Mais, c'est au prix d'un certain désenchantement du monde et de la perte d'une vision globale. Donc, je pense que dans l'état où est notre société aujourd'hui, il est très important de faire un petit peu marche arrière, d'avoir des démarches qui permettent de retrouver des approches globales, même si évidemment, depuis la Renaissance, il n'est plus possible de savoir tout sur tout, car la connaissance a explosé de façon exponentielle.
Donc, connaissance trop vaste, on est bien d'accord, Jean Stone, mais cette mise en lien des connaissances qui existent, parfois très pointues, c'est une manière, une possibilité d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles idées, de faire émerger autre chose.
Oui, je crois profondément à ce principe de la vision non réductionniste qui dit que le tout est plus que la somme des parties. Une vision non réductionniste du monde est aujourd'hui nécessaire. Et dans cette vision, le slogan, si j'ose dire, clé, le mode d'emploi, c'est le tout est plus que la somme des parties.
Vous portez une idée forte, Jean Stone, et peut-être que cette idée revient à ce que vous dites, hein, le tout n'est pas la somme des parties. Une idée forte, la vision matérialiste du monde est insuffisante pour l'expliquer, ce monde.
Oui, je pense que c'est une immense révolution conceptuelle. Quelque chose dont notre société n'a pas encore vraiment pris conscience.
Exactement. Mais une révolution que la science fait en silence. Hein.
Une révolution que la science fait en silence depuis déjà le début du XXe siècle. Mais vous savez, il a fallu près de 2 siècles à la société pour intégrer les travaux de Copernic, Galilée et Newton.
L'Église n'a réhabilité Galilée que très récemment.
Que très récemment. Mais cela vous montre ce que c'est que la notion de paradigme ou de vision du monde. Un paradigme, c'est une vision du monde. La science classique, depuis Galilée, en un mot, a essayé d'expliquer le réel, tout le réel, dans le temps, l'espace, l'énergie, la matière, par le réel lui-même.
On observe, on en tire des conclusions
voilà,
et on comprend.
Si vous avez quelque chose qui existe, la source de ce phénomène est dans notre niveau de réalité. Et ce qui est fantastique, c'est que des choses comme la mécanique quantique nous montrent qu'en fait, il y a un au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière. J'aurais peut-être pas le temps de parler en détail, mais je veux quand même mentionner le nom de Nicolas Gisin, qui est un des grands scientifiques suisses qui dirige la physique de l'université de Genève, et d'Antoine Suarez, qui ont fait des expériences extraordinaires qui montrent en quelque sorte que le temps et l'espace n'existent pas au niveau de la microphysique. C'est-à-dire que les particules qui nous constituent, nous, des êtres humains, quand on creuse un peu, quand on creuse les atomes, quand on creuse tout ça, on tombe sur des particules qui se comportent, j'allais dire, en partie au moins, au-delà du temps et de l'espace. Et ça, c'est une découverte fondamentale qui ont été faites dans les 20 dernières années, enfin, qui sont instaurées au début du XXe siècle, mais dont les découvertes expérimentales ont été faites dans les 20 dernières années.
Mais vous parlez, Jean Stone, de la vision du monde de Galilée. Cette vision que vous qualifiez de réductionniste a commencé bien avant, parce que de l'univers magique des premiers hommes sur la Terre qui ne comprenaient pas très bien ce qui leur arrivait, à cette délégation de l'impuissance aux dieux, parce que c'est à cause des dieux que tout se passe.
Oui.
Jusqu'à Copernic et
Galilée. Qui vont éliminer les dieux involontairement, d'ailleurs, parce qu'ils étaient croyants, mais qui vont éliminer les dieux, oui.
Mais les philosophes grecs avaient déjà imaginé de comprendre
Démocrite.
Le réel à travers le réel.
Démocrite avait déjà, bien sûr, l'idée d'atomisme et donc l'idée de déterminisme. Ce qui a manqué aux Grecs pour atteindre la pleine puissance de la société occidentale, c'est la fameuse notion de réductionnisme. C'est cette fameuse idée, pour les Grecs, les penseurs grecs, tout était encore ramenable à des principes globaux comme l'eau, le feu ou les 4 éléments en fonction de votre penseur grec favori, je ne sais pas lequel c'est, mais chaque penseur grec avait encore une vision globale, même s'ils étaient déjà déterministes.
On peut évoquer la caverne de Platon. La réalité n'est qu'empirique, celle que l'on observe n'est que le reflet d'autre chose.
Alors, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, on dit parfois que tout le débat actuel depuis 2000 ans n'est que quelques lignes en plus en bas de la philosophie grecque. D'un côté, vous avez Démocrite qui annonce le matérialisme, et de l'autre côté, vous avez Platon, et justement, je parlais de physique quantique, et des gens aujourd'hui, comme les physiciens quantiques, que ce soit des Suisses comme ceux que j'ai cités, ou comme Bernard d'Espagnat en France, disent « un physicien quantique ne peut pas ne pas être au moins un peu platonicien ». C'est-à-dire qu'en gros, on revient à la caverne de Platon, en gros, ce que la physique la plus en pointe nous dit, je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais vous pouvez me croire sur parole, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire l'idée que les atomes, les molécules, les particules, tout ce que nous voyons, ce n'est que le reflet d'une réalité plus profonde qui existe en dehors de l'espace et du temps. Et philosophiquement, ça constitue la plus grande révolution depuis l'époque de Copernic, Galilée et Kepler, et c'est ça qui nous ouvre de nouvelles perspectives philosophiques, voire métaphysiques.
Je le disais tout à l'heure, la science fait sa révolution en silence, mais les individus depuis longtemps ont senti confusément que cette vision matérialiste du monde n'était pas suffisante. On en a une preuve éclatante ces derniers jours, le succès incroyable, 50 000 exemplaires vendus d'un livre sur les guérisseurs en Suisse romande. On ne comprend pas pourquoi ça marche, mais ça marche. C'est une scientifique qui a fait une étude.
Vous avez tout à fait raison de dire que le public sent confusément, et c'est pour ça que je me suis permis de faire, puisqu'on parlait d'ouvrage, mon propre ouvrage, Notre existence a-t-elle un sens ? Eh bien, cet ouvrage est là pour répondre à cette attente du public de dire, mais attendez, on sent confusément qu'il y a autre chose. On sent confusément que le monde ne s'explique pas uniquement par la matière, le temps, l'espace, l'énergie, les choses comme ça. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des succès comme cet ouvrage sur les guérisseurs que vous mentionnez, parce que la médecine classique, encore une fois, et j'insiste, est irremplaçable et qu'il serait criminel d'inciter les gens à aller voir ailleurs quand ils ont un cancer ou un truc comme ça. Autant cette médecine-là, elle est limitée parce qu'elle est basée sur ces fameux concepts déterministes, mécanistes, réductionnistes, mots fétiches comme vous dites, mais importants, qui sont ceux de la science classique. Donc il ne faut pas s'étonner que des médecines, et je ne prends pas parti pour ou contre, hein, mais je parle de médecines comme l'homéopathie ou d'autres, qui prétendent traiter globalement l'être humain, qui prétendent non pas traiter l'être humain comme un ensemble de pièces, comme une voiture, mais qui prétendent le traiter globalement. Il ne faut pas s'étonner que ça ait du succès.
Mais cette autre vision du monde, Jean Stone, c'est une vision plus spirituelle, parce que quand on évoque les guérisseurs, c'est bien l'idée de Dieu qu'ils invoquent pour guérir.
Alors, pas forcément, c'est deux choses différentes. Par contre, il est clair que la démonstration d'une certaine limitation de notre niveau de réalité ouvre une porte. Et cette porte, elle l'ouvre de la façon suivante. Les intuitions de toutes les grandes religions, pas seulement les monothéistes, mais vous prenez le taoïsme, le bouddhisme, c'est la même chose. Il y a deux intuitions. Il y a un autre niveau de réalité au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière. Le Tao le dit, le christianisme, l'islam le disent aussi, bien sûr.
Qu'est-ce que la science est en train de découvrir ?
Ce que la science prouve, c'est que notre monde ne s'explique pas uniquement par lui-même, donc il faut faire appel à un autre niveau de réalité. Et la deuxième grande idée des religions, de toutes les religions, c'est de dire l'esprit de l'homme, la conscience humaine, que ce soit les chamans, que ce soit les saints chrétiens ou que ce soit les mystiques hindous, l'esprit de l'homme est en contact avec cet autre niveau de réalité. Et ça, la science aussi le dit, qu'on me laisse citer un seul ouvrage qui est du cerveau à Dieu, du scientifique canadien de très haut niveau qui dirige le laboratoire du cerveau à l'Université de Montréal, qui s'appelle Mario Borgard. Mario Borgard, justement, sur l'effet placebo, sur des choses comme ça, il vous montre que la conscience humaine peut agir sur le corps humain, parce que vous pouvez, avec une psychothérapie qui est pourtant purement psychologique, vous pouvez changer votre système immunitaire et votre taux de globules blancs. Donc vous voyez, l'esprit humain ne se limite pas à un simple homme neuronal, et le monde ne se limite pas au temps, espace, énergie, matière. Voilà les deux grandes idées des grandes religions qui sont aujourd'hui prouvées par la science actuelle, et ça nous ouvre des perspectives extraordinaires.
Mais vous allez plus loin, Jean Stone, parce que vous dites, certes, il n'y a pas de preuves, mais vous prenez le risque de confronter les croyances religieuses, issues, on l'a dit, des grandes traditions spirituelles, aux connaissances de pointe. Et vous parlez même de convergence. Là, vous n'avez aucune preuve.
Non, en fait, la convergence, je viens de vous la décrire. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve, mais il y a une convergence entre l'essence des grandes religions, dont je viens de vous expliquer que, justement, elles postulent cet autre niveau de réalité, et cette spécificité de l'esprit humain, cette capacité à entrer en contact avec cet autre niveau de réalité, et puis les résultats de la science actuelle. Maintenant, soyons rigoureux, ce n'est pas parce que la science actuelle vous dit qu'il y a un autre niveau de réalité, que cet autre niveau de réalité, celui de Dieu, du Nirvana, du Brahman, etc. Vous voyez, ce que vous
comprenez
bien la
différence ? Mais est-ce que science et religion, je comprends bien la différence, mais est-ce que science et religion, parce que la science ouvre des portes qui étaient encore impossibles à ouvrir ou même qu'on n'imaginait pas pouvoir ouvrir, est-ce que cette ouverture permettra un dialogue plus fécond entre science et spiritualité ?
Mais bien sûr, il y a tout. Alors, la convergence, elle se fait au niveau aussi, je ne l'ai pas encore dit, des questions frontières. Il y a par exemple le problème d'origine de l'univers. C'est une question scientifique traitée par les théories comme le Big Bang. Mais c'est aussi une question que posent toutes les grandes religions. Bon, la nature de l'homme, c'est une question scientifique, la conscience humaine, mais c'est une question religieuse, voyez-vous. Donc, en gros, il y a un espace non vide, un espace de dialogue entre science et religion sur des questions frontières. Eh bien, peut-être une nouvelle discipline est en train de se créer. Et j'ai moi-même dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle « Science et quête de sens », où il y a 15 scientifiques, dont 4 prix Nobel, de toutes religions différentes et qui dialoguent entre eux sur leur foi et leurs pratiques scientifiques. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des ouvertures actuellement dans ce domaine.
Vous y allez même assez fort, Jean Stone, dans votre livre « Notre existence a-t-elle un sens aux presses de la Renaissance ?» Vous parlez d'un Hiroshima du matérialisme scientifique.
Oui, parce que si vous prenez les choses, mettez-vous dans la peau d'il y a une centaine d'années, vous aviez le déterminisme de Laplace qui vous disait « l'univers est une grande mécanique déterministe ». Paf, c'est mort, c'est tué par la mécanique quantique qui vous parle d'une incertitude irrémédiable dans l'univers. Vous aviez Newton, avec son espace-temps euclidien, remplacé, paf, c'est mort, dépassé par Einstein, hein, avec la relativité générale et restreinte, et la relativité de l'espace et du temps. Vous aviez la chimie classique, qui était une chimie déterministe. Vous avez maintenant des gens comme le prix Nobel Ilya Prigogine, qui parlent de théorie du chaos, qui parlent de dynamique, thermodynamique du non-équilibre, etc. Donc oui, il y a un bouleversement conceptuel incroyable au cours du XXe siècle dans tous les grands domaines scientifiques. Et c'est ça que j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à étudier et à essayer de synthétiser. Donc, pour mettre à la portée du grand public, le fait que le bouleversement n'est pas en physique ou en biologie ou en neurologie, non, il est, avec quelques décennies de décalage, il est partout.
Mais ce changement de paradigme, pour aller vers quoi ? Vers une nouvelle vision de l'homme, vers une nouvelle place de l'homme dans l'univers ?
Évidemment, tout ce changement redonne à l'homme une place centrale dans l'univers, non pas au sens géographique, je disais tout à l'heure qu'on était perdus sur une petite planète dans une étoile de banlieue, mais
nous sommes des poussières d'étoiles
voilà,
aussi.
Nous sommes des poussières d'étoiles, mais justement parce que nous sommes des poussières d'étoiles, il a fallu que l'univers ait un réglage extrêmement précis, et donc vous avez l'idée que d'une certaine façon, l'univers est formaté, et c'est ça la grande idée.
Donc il a un sens.
Voilà, c'est la grande idée de mon ami Trinh Nguyen Thuan qui a écrit le très beau livre là-dessus, comme La Mélodie Secrète ou Le Chaos et l'Harmonie.
C'est un astrophysicien.
Voilà, Trinh Nguyen Thuan qui vous dit qu'effectivement, on peut aujourd'hui postuler, non pas prouver, soyons très rigoureux, hein, c'est pas une preuve, mais on peut postuler que l'univers a un sens à cause de ce problème du réglage de l'univers. Donc l'univers, d'une certaine façon, est réglé de façon extrêmement précise pour que des êtres complexes comme nous puissent apparaître.
Nous ne sommes donc pas là par hasard, nous sommes là pour quelque chose et pas pour rien. Dans votre livre « Notre existence a-t-elle un sens ?», vous précisez que vous offrez au lecteur une synthèse personnelle des connaissances scientifiques. Vous prenez la précaution d'être très rigoureux. Des connaissances scientifiques les plus déroutantes. Vous voulez réenchanter le monde ?
Oui, mais justement, ce qui est important, c'est que cette vision est une vision d'ouverture. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Ça veut dire que cette vision est une vision antidogmatique, c'est une vision antifondamentaliste. On n'est pas là pour remplacer un dogme, en gros le scientisme, par un autre dogme. Alors, c'est une vision qui parle en faveur de la possibilité d'une vision non matérialiste du monde, quelle qu'elle soit. Et ça, je crois que c'est une grande révolution. Donc moi, je laisse au lecteur libre de choisir sa propre synthèse. Je lui donne un certain nombre de clés de compréhension pour lui montrer qu'aujourd'hui, ce n'est de nouveau plus a priori absurde, c'est de nouveau porteur de sens de faire le pari que, effectivement, nous ne sommes pas apparus par hasard, que le fait qu'il y ait des êtres vivants sur la troisième planète d'un système solaire, des êtres capables de regarder, d'appréhender l'univers, sa beauté, sa complexité, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas issu d'un phénomène de fluctuation aléatoire du hasard ou d'évolution aléatoire, mais c'est quelque chose qui est porteur de sens et qui fait référence à la structure même de l'univers.
Vous êtes croyant, Jean Stone ?
Bien sûr, je ne cache pas que moi-même je suis chrétien, baptisé orthodoxe et aujourd'hui assez converti au catholicisme, mais j'insiste beaucoup sur le fait que mon travail de philosophe n'est pas lié à une croyance particulière, dans le sens que, encore une fois, je viens de vous le dire, il y a des choses dans cette vision du monde qui parlent en général pour une vision non matérialiste du monde, c'est pas quelque chose qui parle en faveur d'une religion particulière, même si on peut faire des liens avec toutes les religions.
Jean Stone, merci.
Haute définition, une émission que vous pouvez réécouter ce soir à 22h40 sur la première et quand vous le désirez sur internet hd.rsr.ch.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute de contournement de Genève, deux accidents survenus dans les tunnels de Vernier et de Confignon en direction de la France provoquent un bouchon jusqu'à la jonction de l'aéroport. La voie de gauche est maintenant réouverte dans le tunnel de Confignon. Elle est toujours, en revanche, fermée dans le tunnel de Vernier. Et tout de suite, sans plus attendre, la météo avec Carole Dupuis.
Le ciel est déjà bien dégagé sur la Suisse romande. Les derniers stratus s'évanouiront en début d'après-midi. On profitera du soleil même si l'air restera glacial. Une sensation accentuée par la bise qui persistera sur le Jura, les Préalpes et le Léman. Elle se calmera au fil des heures mais soufflera encore faiblement demain. Il fera moins 2 degrés cet après-midi autour du bassin lémanique, 0 du côté du Valais et moins 4 degrés sur le plateau. Demain, le soleil illuminera la vallée du Rhône. Il sera plus réservé ailleurs, masqué par des nuages élevés et denses. On grelottera demain avec un minimum de moins 8 à moins 15. Les températures atteindront moins 2 à moins 4 degrés lundi après-midi.
La météo avec Generali.
La fondation Pierre Giannada et son exposition de Renoir à Sam Safran.
Et c'est la fin de ce journal. Pour ma part, je vous souhaite un excellent dimanche après-midi.